C'est rare qu'on ait l'occasion de parler à un scientifique.
Oui,
parce que d'habitude, on pense qu'ils sont inaccessibles.
Oui, bien, il est loin d'être inaccessible. Frédéric Bouchard qui nous propose son livre « Ici, la Terre, 10 aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde ». C'est aux éditions Multimonde. Monsieur Bouchard, bonjour.
Bonjour.
Bon matin, tout le monde.
Monsieur Bouchard, vous êtes diplômé en sciences de la Terre de l'Université Laval et de l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. Vous êtes maintenant professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke. On peut mentionner que vous avez été lauréat du concours Make Our Planet Great Again, lancé par le gouvernement français en 2017, ce qui vous a permis d'étudier le pergélisol sous l'effet des changements climatiques en Sibérie et dans le Nord canadien, ce qui veut dire que vous avez voyagé pas mal, M. Bouchard.
Oui, j'ai eu la chance dans les dernières années là, d'aller en Sibérie, comme vous avez dit, dans le nord du Canada, puis aussi dans le nord de la Scandinavie, là, dans le nord de la Suède. Des paysages remarquables, vraiment impressionnants. Donc, je me considère pas mal chanceux, oui.
Et le livre « Ici, la Terre », ben, c'est pour nous permettre de découvrir comment la Terre s'est formée et transformée depuis sa création. Et lorsqu'on parle de la création de la Terre, là, on remonte à combien d'années?
C'est très, 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 très vieux. Je ne sais pas si vous êtes prêts à vous imaginer le temps immense en ce matin, en ce vendredi matin.
Ah oui.
Mais pour faire une analogie, là, si on résumait l'histoire de la Terre depuis sa formation en une journée de 24 heures, c'est-à-dire que minuit, c'est le début de la formation de la Terre, puis on va dire 23h59 secondes, c'est maintenant, ben nous, les humains, là, le Homo sapiens, il y a environ 2 à 300 000 ans, on est arrivé vers 23h59 et 56 secondes.
Donc,
vraiment les dernières secondes. C'est l'enfer. C'est ridicule, hein, le temps que ça a pris. Donc, l'âge de la Terre, c'est 4,55 milliards d'années. Donc, on parle pas de milliers ni de millions, mais on parle de milliards d'années. C'est extrêmement loin dans le temps. Puis, il faut souvent faire vraiment un effort là, de s'imaginer à quel point c'est long.
Comment on fait pour en arriver à ça?
Ouais, c'est... Ben oui, bonne question, excellente question. Puis ça fait partie de... C'est dans un des chapitres.
Oui.
Ça a pris du temps avant qu'on arrive à un chiffre précis, là. Je dirais que dès le 18e siècle, il y a déjà des gens qui commençaient à dire l'âge de la Terre de 6000 ans qui est dans la Bible, là, c'est peut-être pas mal trop court. Ça. Il y en a qui commençaient à proposer des millions d'années, mais on n'avait pas encore les techniques, les outils, les instruments... Les instruments d'analyse pour arriver à un chiffre précis. Puis c'est vraiment dans les années, je dirais, le milieu du 20e siècle, les années 1940-1950, on a commencé à avoir des machines qui pouvaient dater des échantillons. Vous avez probablement entendu parler de la technique du radiocarbone ou du carbone 14
qui
permet de dater des coquillages, des ossements, des vieux bouts de tissu, des trucs comme ça.
Le Saint-Suaire de Turin, je pense qu'ils ont pris ça pour...
Exactement, le Suaire de Turin, ils l'ont passé à la technique du radiocarbone, du carbone 14. Le carbone 14, la technique, c'est bon pour des échantillons qui ont déjà été vivants puis qui ont un âge maximal, on va dire, de 50 à 60 000 ans. Mais il existe d'autres techniques avec d'autres éléments chimiques comme l'uranium, la technique qu'on dit, l'uranium qui se transforme en plomb, donc un élément radioactif. Et on a réussi dans les années 50 à commencer à dater des minéraux, des météorites. Et on a daté une météorite dans les années 50 à 4,55 milliards d'années. Donc ça fait pas si longtemps que ça, finalement, qu'on connaît l'âge exact de la Terre.
Il y a beaucoup de découvertes qui sont faites dans les dernières...
Ouais. Ben, est-ce qu'on continue de découvrir?
Oui.
Tout le temps, moi, je dirais, la quête du savoir, d'en connaître plus sur notre planète, c'est pas fini. C'est sûr qu'une des grandes révolutions, il y a une grosse étape qui a été franchie dans les années 60-70 avec la théorie de la tectonique des plaques. Donc, la Terre qui est séparée en une douzaine de grosses plaques qui bougent les unes contre les autres. Puis quand les plaques se rentrent dedans, ben ça donne des tremblements de terre, par exemple. Donc, si on a compris ça, ça fait à peine une cinquantaine d'années. Ça a été un gros bond dans la connaissance. C'est d'ailleurs le dernier chapitre du livre. Mais on continue à observer des changements, on continue à comprendre des nouvelles affaires. Par exemple, avec les satellites maintenant, on est capable d'observer des phénomènes de plus en plus précis à une échelle spatiale puis temporelle de plus en plus fine. On est capable, de, par exemple, d'explorer les fonds marins qu'on connaissait très, très peu jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, on continue à faire des découvertes. C'est pas fini, loin de là.
Et en commençant le livre, moi, j'ai été surprise d'apprendre, M. Bouchard, que vous nous parlez d'oxygène qui nous vient surtout des océans, du plancton marin et non des fameuses forêts
tropicales,
amazoniennes. Oui. Hein?
Ben oui, c'est surprenant. Ça, je pourrais dire, ça fait partie des idées reçues, des mythes que malheureusement... Bon, je ne dis pas que c'est fait volontairement, mais il y a un manque de connaissances de sciences de la Terre qui fait en sorte qu'on entend souvent la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète.
Oui.
Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que là, je veux faire attention à ce que je dis parce qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas saccager la forêt amazonienne puis de la préserver pour des questions de biodiversité, d'équilibre écologique et tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'une forêt mature comme la forêt amazonienne, ça produit beaucoup d'oxygène, mais ça en consomme aussi beaucoup. L'excédent d'oxygène qui se retrouve dans l'atmosphère, il provient en grande partie des océans. C'est là où le plancton en produit des quantités phénoménales. Mm-hmm. Et il y a une partie de ce plancton-là qui est préservée de l'oxydation, de la dégradation de la matière organique. Et qui va aller se déposer au fond, ce qui fait que ça met un peu d'oxygène en surplus. Tandis que dans les forêts, quand les arbres poussent, évidemment, ils vont capter du carbone et produire de l'oxygène. Mais quand les arbres meurent,
oui.
Ben, ils vont relarguer dans l'atmosphère leur carbone qui va consommer de l'oxygène. C'est le processus inverse de la photosynthèse. Donc, finalement, une forêt mature, c'est à peu près en équilibre. Ça produit de l'oxygène, mais ça en consomme également. Donc, il y a plein de bonnes raisons de préserver la forêt amazonienne et toutes les autres forêts d'ailleurs, mais ce ne sont pas des poumons pour la planète, c'est vraiment les océans.
Alors, votre livre est divisé en chapitres et chaque chapitre parle d'une époque
découverte,
ou d'une
oui.
découverte, quoi?
Exactement. Donc, un chapitre, il y a une idée ou une controverse ou un moment Eureka, puis on suit au moins une personne. Parfois, j'ai pas le choix de mettre deux, trois personnages là-dedans. Ben, je dis personnages, mais c'est des gens qui ont vraiment existé.
Oui.
Et ça se lit. Vous n'avez pas besoin de lire les chapitres en ordre. Chaque chapitre
est
indépendant des autres. Donc, ça se lit là assez facilement, je pense, puis rapidement. Là, c'est quoi? C'est une quinzaine de minutes par chapitre. Ça se lit bien. Là,
ça s'y serait bien.
Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est écrit pour le grand public, donc il n'y a pas besoin d'avoir une base en géologie pour comprendre ça.
Est-ce que la planète va durer encore 4,7 milliards d'années, vous pensez?
Ben, moi, je pense que oui, puis je vais vous dire pourquoi je ne suis pas le seul qui le dit, là. C'est pas juste une opinion, c'est que selon les astrophysiciens, là, ceux qui étudient les étoiles, nous disent que le Soleil, qui a à peu près le même âge que la Terre, donc pas tout à fait 5 milliards d'années, apparemment, le Soleil, il en est rendu à la moitié de sa réserve en combustible, si on veut, de sa réserve d'énergie. Alors, on nous dit que le Soleil, dans environ 5 milliards d'années, va commencer à faire une série de processus là, d'implosion, d'explosion. Là. On en a encore pour 5 milliards d'années de Soleil. Donc, la planète Terre...
On ne sera pas là pour se casser la tête. Hein?
Monsieur Bouchard...
Je ne sais même pas si on va être là dans quelques milliers d'années, mais en tout cas, effectivement, oui. On ne sera plus là dans 5 milliards, c'est ça.
Monsieur Bouchard, avec le réchauffement planétaire, est-ce que vous pensez qu'on va faire des découvertes qui vont permettre de comprendre encore mieux notre planète?
J'espère que ça va se passer, oui, au niveau scientifique, mais aussi au niveau, je dirais, politique, puis individuel ou social, là,
oui.
De plus en plus, on va prendre conscience qu'il y a des petits gestes à faire, puis des gros gestes aussi. C'est sûr que plus ça va, plus il y a des écosystèmes qui sont menacés avec le réchauffement. Il y a des espèces qui sont capables de migrer. Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal à s'adapter. Donc, c'est une question aussi de biodiversité, d'équilibre de nos écosystèmes. la qualité de l'eau qu'on boit, puis des sols qu'on cultive, de l'air qu'on respire. Donc, oui, les scientifiques vont apporter certainement des connaissances dans le futur, mais j'espère aussi que les politiciens vont les écouter, mettons.
Mmh. Avez-vous un site Internet où les gens peuvent se procurer votre livre?
Oui, bien, si les gens vont sur le site des éditions Multimonde, il y a une section, là, si vous faites une recherche ici, la Terre, vous allez tomber dessus. Sinon, dans la section les livres apparaître ou les livres qui viennent d'apparaître sur le site web des éditions Multimonde, vous allez le trouver assez rapidement.
Intéressant, ouais. Très intéressant.
Moi, j'ai beaucoup aimé le chapitre concernant le déluge. On parle aussi, un autre sujet qui m'a beaucoup interpellé, c'est la mesure du monde en pleine révolution.
Ah oui.
Ah,
c'est fou, hein? J'étais un peu au courant, un peu comme tout le monde, j'imagine, de ce qui s'est passé dans la Révolution française, dont les échafauds avec la guillotine et tout ça, puis les changements radicaux qu'il y avait eu, mais j'étais pas au courant que la Révolution française, ça a été aussi une révolution dans la mesure, dans le sens mesurer les choses, le système métrique. Il fallait mettre les poids et mesures, l'ancien système aux poubelles, puis le remplacer par un nouveau système de mesure. Ça s'est fait pendant 7-8 ans, en pleine guerre, en pleine révolution, et pendant ce temps-là, il y a des scientifiques qui travaillaient là-dessus. Moi, ça m'a vraiment surpris, là, en lisant là-dessus.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est pogné avec les deux systèmes.
Oui. Ben, au Canada, je pense qu'on est soit... Il y en a qui diraient qu'on est bilingue. Moi, je dirais des fois, on est un peu schizophrène. Même, on sait plus trop si on parle en Fahrenheit ou en Celsius.
Ou en pied, ou en pouce, ou en mètre.
En pied ou en pouce. L'anecdote ultime, c'est qu'on sait... On parle des degrés Celsius quand on parle de la température de l'air pour la météo, mais on parle en degrés Fahrenheit quand on va se baigner dans la piscine à 75 ou à 80.
C'est vrai.
On n'a aucune idée des fois de la conversion entre les deux. Bon, on va partir notre four à 350, puis on n'a aucune idée que c'est des Fahrenheit, puis que c'est à peu près 180 degrés Celsius. Et on est là. On a les deux systèmes, on est pogné avec.
Frédéric Bouchard, merci beaucoup pour ces quelques minutes fort intéressantes, puis j'invite les gens à se procurer votre livre « Ici, la Terre », c'était aux éditions Multimonde. Merci.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Bon matin.
Bonne journée. Voilà.